Quand j'ai dit que j'ai aucune implication, je suis innocent, il me croit pas. Il me raconte autre chose. Quand j'ai dit des propos à décharge, il me croit pas non plus. Dès le début, on m'a accusé de certaines choses. Et je sentais que j'étais comme tétanisé au niveau des émotions.
Bonsoir. L'argent, l'argent qui rend fou et pousse au crime. Est-ce donc l'argent qui a entraîné François Légeret à la Noël 2006 à commettre l'irréparable? La justice suisse en est convaincue. Elle a condamné par deux fois cet homme pour un triple crime, celui de sa mère adoptive, une amie de celle-ci, ainsi que sa sœur dont le corps n'a jamais été retrouvé. Deux cadavres et une disparue. Un massacre perpétré sans témoin dans le huis clos d'une villa située sur les hauteurs du lac Léman dans la ville de Vevey. Une enquête qui va faire surgir une histoire familiale pétrie de rancœur, de suspicion et de faux-semblants. Dans ce théâtre d'ombre, François Légeret, le fils adoptif, va concentrer tous les soupçons avant d'être condamné à la prison à vie. Mais est-ce bien lui, cet homme qui aujourd'hui encore continue de clamer son innocence, qui a tué les trois femmes? Quelles sont les preuves contre lui? Et pourquoi les mortes ont-elles été aperçues après le crime? Autant de questions posées à nos invités sur cette étrange affaire Légeret, une histoire qui joue à cache-cache avec la vérité, une énigme suisse où l'heure exacte du crime n'a jamais été aussi capitale.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et ce soir donc dans l'heure du crime, l'affaire Légeret en Suisse à l'hiver 2006, juste après les fêtes de Noël, une découverte morbide derrière les portes verrouillées et les volets clos d'une villa tout aussi discrète que cossue. Ce 4 janvier 2006, Domenico Orlando arrive au numéro 26 du sentier des Rurettes à Vevey, commune huppée et paisible sur les rives du Léman. Le jardinier de Ruth Légeret, une richissime veuve, vient déblayer la neige tombée en abondance entre la Noël et le jour de l'an. Le parc de 3000 mètres carrés avec vue sur le Léman est un tapis blanc. Le jardinier est intrigué par la boîte aux lettres qui déborde des journaux qui n'ont pas été ramassés. Également surpris de ne pas entendre les deux chiens aboyer. La voiture de Madame Légeret est là, mais les stores sont tirés. Domenico Orlando frappe à la porte, mais personne ne répond. La société de sécurité est alertée. Le jardinier, accompagné d'un vigile qui a un double des clés, pénètre dans une demeure plongée dans l'obscurité. Ils sont accueillis par un chien affamé qui ne tient plus sur ses pattes. Le deuxième chien, lui, est mort de soif et de faim dans la chambre de la maîtresse de maison. Dans la cuisine, la vaisselle n'a pas été faite, des aliments, du pain, de la confiture sont restés sur la table, des fruits sont pourris. Les deux hommes poussent une porte qui donne sur l'étroit escalier qui mène à la chaufferie. Une odeur pestilentielle remonte soudain du bas des marches. Il y a là deux corps allongés face contre terre, les corps de deux vieilles dames. Elles semblent avoir fait une chute mortelle. La police du canton de Vaud est rapidement sur place. Les victimes facilement identifiées, Ruth Légeret, 81 ans, la propriétaire de la maison, et Marina Studer, 80 ans, une amie baloise d'origine péruvienne venue passer les fêtes de Noël à Vevey. Manque à l'appel Marie-Josée Légeret, 56 ans, la fille de Ruth, une célibataire qui habite avec sa mère dans la maison. Absence inexplicable, les papiers de Marie-Josée, son téléphone, son portefeuille sont restés sur place. Les deux corps sont en état de décomposition avancée, ils portent des ecchymoses. Le légiste détecte des côtes fracturées. Ruth Légeret tient au creux de sa main droite une touffe de cheveux. Des gouttes de sang sont visibles. Le passage d'un produit chimique, le Blue Star, va révéler des traces de sang bien plus abondantes. Rien n'a été volé, à l'exception d'un lourd bougeoir. Crime ? Accident, bagarre tragique, les enquêteurs ne se prononcent pas. Ruth Légeret avait deux fils qui habitent dans le coin, Jean-Marc, un architecte qui avait repris le bureau d'études de son père Charles, un puissant promoteur, et François, adopté en Inde quand il avait 9 ans. Ce dernier vit dans un luxueux chalet où il élève des animaux. Bonsoir Arnaud Béda.
Bonsoir.
Vous êtes en direct ce soir dans l'heure du crime. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste en Suisse et vous connaissez très bien cette affaire sur laquelle vous avez travaillé et enquêté. Alors là, on est au tout début, effectivement, de cette incroyable affaire Légeret. On va rentrer dans les investigations. Mais auparavant, Arnaud Beda, dites-nous, qui sont les acteurs de cette tragédie? On va commencer par les victimes, si vous voulez bien.
Alors les victimes, c'est Ruth Légeret et sa meilleure amie qui est d'origine péruvienne, qui est apparentée à un ancien président du Pérou. Ce sont et la troisième victime supposée, parce qu'on n'en a pas la preuve formelle, c'est Marie-Josée, donc la fille de Ruth. Toutes ces victimes sont issues d'une famille aisée. En Suisse, les Légeret sur la Riviera vaudoise, dans les environs de Vevey, c'était des gens importants qui avaient fait fortune.
C'est ça. C'est une famille de. Il faut nous présenter un peu cette famille. Hein. C'est une famille de. Le père qui est mort, le père Légeret, était un promoteur très important.
Secteur. Alors il y a évidemment le père qui est un architecte qui a fait fortune dans l'immobilier en construisant des dizaines et des dizaines d'immeubles. On estime son patrimoine à plus de 40 millions d'euros. Avec
même,
évidemment des loyers qui tombent tous les mois. C'est une fortune considérable. Et puis c'est une famille. Qui était très connu dans la région. C'était des notables locaux, comme dans un film de Chabrol. Des gens qui sortent, qui vont à des réceptions, qui vont à des dîners, et qui se côtoient entre familles équivalentes.
Alors on est là dans, effectivement, vous le décrivez, dans la bonne société vaudoise, avec des gens connus et fortunés. Je voudrais que vous nous précisiez un petit peu quand même le qui est Ruth Légeret. C'est une veuve. C'est une femme discrète d'ailleurs, mais qui est tout à fait bien implantée et d'une grande simplicité dans cette ville de Vevey.
C'est une vieille dame exquise, comme on en croise un peu partout, vous savez, dans des tea rooms un peu huppés, de très bonne compagnie, discrète, effacée, qui a ses petites œuvres de bienfaisance, qui a beaucoup d'amis, que tout le monde aime bien. C'est une gentille dame.
C'est une gentille dame. Alors, trois enfants, Marie-Josée, qui a disparu. Qui compte parmi les possibles victimes. Et puis deux garçons, j'ai donné leur prénom, Jean-Marc et François. François, il est adopté, il a été adopté en Inde. Et il n'était pas seul d'ailleurs, puisqu'il y avait deux garçons qui avaient été adoptés à un moment donné par la famille.
Hein, oui, c'est bien ça. Il y a deux garçons adoptés en Inde, il y a Ramou et François Légeret, qui ont été adoptés par les époux Légeret dans les années 70, grâce, vous savez, à Terre des Hommes, la fameuse association d'aide à l'enfance de Edmond Kaiser.
Et donc, et l'un des deux est mort, hein, il faut le préciser.
Ramou
est mort. Il ne reste que François qui est vivant.
Est mort de mort naturelle.
Hein, est mort de mort naturelle, bien sûr.
Une crise cardiaque.
Voilà, c'est ça. Il est mort jeune, mais de mort naturelle. Il faut quand même le préciser dans cette affaire où il y a quand même beaucoup de cadavres.
Bien sûr, oui.
Alors justement, on en vient à la scène du crime avec vous, Arnaud Beda. Qu'est-ce qu'elle dit, cette scène du crime? Peut-être tout simplement une constatation déjà. Le cambriolage, c'est exclu.
C'est exclu parce que rien n'a bougé, rien n'a disparu de l'appartement. Toutes les valeurs sont bien dans cette villa cossue qui quand même possède pas mal de valeurs qui auraient pu faire le bonheur des cambrioleurs. Donc très très vite, cette piste est exclue. La porte est fermée de l'intérieur, il n'y a pas de traces d'effraction. Pour la police, c'est clair dès le début qu'on a affaire à possiblement, enfin ça peut être un accident, mais le plus possiblement un homicide.
Un homicide, et je complète ce que vous dites, Arnaud Beda, un homicide par un familier, commis par un familier, c'est quelqu'un qui connaît la maison.
Oui, c'est quelqu'un qui connaît la maison, qui connaît bien la configuration des lieux, qui a pu entrer aussi sans éveiller. Il y avait deux chiens, certes deux petits chiens, mais deux petits chiens qui faisaient beaucoup de bruit, donc il devait être connu au moins de ces deux petits chiens.
Les policiers de Vevey et leurs collègues de Lausanne vont se tourner vers les fils de la propriétaire de la villa. Va alors se dessiner les contours d'une sombre histoire familiale dans laquelle l'argent joue les premiers rôles. Dans les heures qui suivent la découverte des corps dans la villa de Vevey, les policiers ont la lourde charge d'aller prévenir les deux fils de Ruth Légeret. Même si les enquêteurs privilégient clairement l'hypothèse criminelle, ils vont rester évasif et discret. Jean-Marc, architecte, habite tout à côté. Quand les policiers l'informent du drame, il ne marque pas vraiment de réaction de surprise. Malgré la gravité des faits, il n'a pas, semble-t-il, l'intention de se déplacer au numéro 26 du sentier des Rurettes. Il explique sans détour qu'il est fâché depuis longtemps avec sa mère et sa sœur. 12 ans qu'ils ne se sont pas adressés la parole. Tout cela à cause du partage de l'héritage mirobolant de son père, Charles Légeret, décédé en 1990 et propriétaire d'une fortune immobilière. Pas d'accord possible sur l'héritage. Il a donc préféré prendre sa part, même réduite, et couper définitivement les ponts avec une famille dont il ne voulait plus entendre parler. Le témoin n'est pas étonné de ce qui vient de se passer. Selon lui, sa sœur était dépressive et sa mère sous calmant. Jean-Marc Légeret détaille son emploi du temps des derniers 15 jours. Tout est vérifié. Le fils aîné dit la vérité. Il n'a rien à voir ni de près ni de loin avec ce qui s'est passé dans la villa. Dans le même temps, les policiers se rendent chez le fils cadet, François Légeret, 42 ans. Il habite à une quinzaine de kilomètres, un gros chalet posé sur une colline au mont de Corsier. Une propriété peuplée d'animaux, cheval, âne et même un lama. Les policiers ne trouvent pas François, il dormira, dira-t-il. Il n'est interrogé que le lendemain. Lui aussi semble impassible quand les enquêteurs lui parlent de la découverte des corps. Impossible de savoir si l'homme est sous le choc ou s'il est gagné par l'angoisse. Il raconte qu'il a vu pour la dernière fois sa mère le vendredi 16 décembre. Il l'a retrouvée à son salon de coiffure à Vevey. Ils ont parlé argent. C'est lui qui gère les immeubles. Il touche pour cela 5000 euros par mois. Il lui a demandé une avance de 83 000 euros pour ses projets. La patronne du salon de coiffure confirme cette rencontre. Elle n'a pas noté le moindre incident. Personne n'était en colère ou nerveux. Pour les jours suivants, François est plus hésitant sur son emploi du temps. Les policiers s'intéressent précisément à la journée du 24 décembre, car selon eux, les femmes ont été tuées ce jour-là après 11 heures. Pourquoi 11 heures? Eh bien parce qu'à 10h45, Ruth Légeret a discuté avec un postier. Mais quand un autre postier a retoqué à sa porte 20 minutes plus tard, plus aucune réponse. Le téléphone dans la maison a dès lors sonné dans le vide. François indique avoir passé ce 24 décembre dans la famille de sa compagne. Celle-ci confirme, mais précise, que son compagnon s'est ce jour-là fréquemment absenté. Le juge Jean-Pierre Chaton décide de l'entendre. Arnaud Béda, journaliste, ce soir invité dans l'heure du crime et en direct depuis la Suisse où vous résidez et où vous travaillez. Voilà donc François Légeret placé sous statut de prévenu, comme on dit en Suisse. Arnaud, c'est un peu l'équivalent de témoin assisté en France, c'est ça,
hein? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est une garde à vue.
Voilà, on n'est pas formellement inculpé.
Inculpé.
On est gardé à vue, interrogé. Alors, un mot tout de suite dans cette enquête sur la date retenue par les enquêteurs pour les morts. Le 24 décembre, ils sont précis, juste après 11h. Est-ce qu'ils en sont sûrs de cette heure et de cette date, les policiers?
C'est bien le point central. C'est bien le point central de toute cette affaire. Pour les tribunaux suisses, c'est bien le 24 décembre, juste vers entre 11h et midi, que le crime a eu lieu. Mais il y a des éléments en tout cas qui vont contredire cette probabilité qu'on verra sans doute ensuite.
On verra plus tard, oui. Hein, mais il reste fixé sur cette date, hein, le juge et
oui, il reste fixé sur cette date, vraiment à cause du postier, l'histoire du bouquet de fleurs posé devant la porte, il a sonné, il n'a pas eu de réponse, donc on pense que c'est effectivement que ça a dû se jouer dans cet espace-temps-là.
Et qui plus est, les amis IES de Ruth Légeret qui l'ont appelé à plusieurs reprises pour justement parce que c'est Noël, donc on se souhaite Noël,
on
évidemment.
On se souhaite Noël. Le téléphone sonnait dans le vide.
Il y a pas de réponse. Non.
On a encore aperçu Marie-Josée faire des courses le 24 vers midi au supermarché de Saint-Antoine. Mais c'est les derniers témoins oculaires pour la mi-journée qui ont aperçu Marie-Josée et Ruth.
Donc jour-là, là, on bascule dans le silence, si je puis dire, dans l'affaire Légeret. Alors, là, François Légeret, il est entendu. Là, le juge tique un petit peu sur ce personnage. Qu'est-ce qu'il dit sur son emploi du temps? Il n'est pas très clair, là.
C'est bien là aussi tout le problème. C'est que François, il n'est pas bon du tout dans sa défense. Il s'enferme beaucoup dans le mutisme et quand il parle, il est assez cassant, il est assez hautain. Bon, il faut dire qu'on l'interroge sans cesse, sans relâche. On ne baisse pas la garde avec lui. Et puis, évidemment, alors bon, il dit que le 24 décembre, il était dans sa belle famille pour passer le réveillon de Noël et puis que durant la fin de journée, il s'est absenté un moment pour aller nourrir ses animaux. Il s'est rendu compte qu'il avait oublié de nourrir ses animaux. Donc, il a fait le chemin inverse depuis ses beaux-parents pour revenir au Mont-de-Corsier. Le problème, c'est que l'itinéraire raisonnablement fait dans une voiture prend une heure, et ce jour-là, il a mis 2h30. Donc évidemment, vous voyez, dans l'esprit des enquêteurs, il y a 1h30 de battement. Qu'a donc fait François Légeret?
Et il n'y avait pas d'embouteillage, il faut le préciser.
Non, ça roulait très bien, et voilà, pas de neige. Donc
sur ces routes suisses qui étaient dégagées et propres, comme toujours, en Suisse.
Exactement.
Alors, il y a une autre impression bizarre qu'il laisse au juge, c'est le fait que, par exemple, il ne pose aucune question sur sa sœur qui a disparu.
Oui.
Il ne s'inquiète pas du tout.
Il ne s'inquiète pas du tout parce qu'il ne l'aime pas.
On va tout de suite avancer dans ce récit pour voir la suite des événements avec ces témoignages qui vont surgir et qui vont parfois être capitaux. Après 15 heures d'audition, François Légeret quitte libre le cabinet du juge. Pas de poursuite engagée. Le magistrat préfère attendre les résultats de plusieurs expertises, empreintes, traces ADN, analyse des finances de la famille pour décider de la suite du dossier. Les policiers du canton de Vaud ont exclu la thèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné pour expliquer les morts de Ruth Légeret, de son amie de toujours Marina Studer et de l'absence inquiétante de Marie-Josée Légeret. Ils pensent plutôt à un crime maladroitement mis en scène. Ils en veulent pour preuve la touffe de cheveux découverte dans la main de Ruth Légeret, des cheveux qui appartiennent à sa fille, Marie-Josée, la disparue. Sauf que ses cheveux n'ont pas été arrachés. Ils ont été posés dans la main de la victime pour, de toute évidence, aiguiller les enquêteurs vers la fille. Les experts relèvent encore une trace de chaussure de chantier sur un vêtement. Chaussure qui ne sera jamais identifiée, comme une empreinte de main dans le dos de Marina Studer. Empreinte qui ne parlera pas. Mais surtout, ils trouvent sur le col déchiré de la chemise de nuit que portait Ruth Légeret un ADN mélangé, le sien et celui de son fils, François. Les constatations bancaires montrent, elles, que François Légeret était criblé de dettes. La famille le menaçait même de lui couper les vivres. Dans des courriers, sa sœur l'accuse d'être cupide, d'avoir trop profité de leur mère. François était-il aux abois? A-t-il voulu tuer tout le monde pour empocher l'héritage? Le 2 février, il est arrêté, inculpé d'assassinat et écroué. Face au juge Chaton, François Légeret se dit étranger à ce double crime et à cette disparition. Le juge multiplie les auditions, le fils adoptif est sous pression. Le 6 février, il donne un tout autre emploi du temps pour la journée du 24 décembre. Oui, il s'est rendu dans l'après-midi chez sa mère, sentier des Rurettes. Il n'a pas les clés, il a sonné à la porte et indique être tombé sur sa sœur. Elle n'était pas dans son état normal. Elle lui aurait avoué que quelque chose s'était passé. Elle l'aurait alors entraîné vers l'escalier de la chaufferie. François Légeret raconte avoir vu le corps de sa mère au pied des marches, face contre terre. Et dans l'entrebâillement d'une autre pièce, un deuxième corps, celui de Marina Studer. Il aurait aidé sa sœur à mettre les deux cadavres côte à côte pour faire croire à une chute accidentelle. Légeret affirme avoir quitté les lieux sans se retourner, laissant sa sœur régler cette tragédie. Quand le juge lui demandera pourquoi, lui, infirmier de formation, n'a pas cherché à porter secours à sa mère, il indiquera qu'il ne s'en souvient plus. Arnaud Béda, journaliste en Suisse, et ce soir dans l'heure du crime, on vous retrouve. Voici donc pour ce coup de théâtre, ces espèces d'aveux de François Légeret un peu tardifs, qui n'en sont pas d'ailleurs, il dit simplement qu'il s'est rendu dans la maison du crime, ce qui est déjà pas mal. Arnaud Béda, c'est la découverte de l'ADN qui provoque chez Légeret cette envie de se confier?
Oui, on peut l'imaginer. Il est mis devant des évidences et il doit évidemment trouver une explication au pourquoi de ces évidences. Il dira ensuite ne plus être allé ce jour-là au chemin des Rurettes visiter sa maman. Hein. Faut pas l'oublier non plus.
C'est ça. Donc c'est la seule fois où il y est allé finalement. Hein.
Il dira y être allé, mais après il dira à son procès, ben non, à l'ouverture du procès, ben non, je n'y étais pas. Voilà.
Oui, il parlera beaucoup de la pression du juge. Il faudrait que le juge Chaton, malgré son nom qui est assez sympathique, il n'a pas lâché l'étau sur François Légeret. Les auditions se sont multipliées, je crois. Hein.
Oui, le juge Chaton, ce n'est pas un enfant de cœur. C'est un dur à cuire qui ne se laisse pas faire. Évidemment, il faut avoir de la résistance, visiblement, face à ce juge d'instruction.
Alors, on va avancer un petit peu dans cette enquête à ce moment-là, qui est assez rapide, d'ailleurs, puisque les choses se déroulent sur un bon rythme pour la police suisse et pour le magistrat instructeur. Il y a un moment important dans ce dossier, c'est la reconstitution. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet épisode qui va apporter beaucoup d'informations?
Oui, mais pour sa défense, il a évidemment été très très mauvais dans cette reconstitution. Il a admis être allé au chemin des Rurettes, que en fait c'est Marie-Jo qui lui a ouvert la porte. Et que Marie-Jo lui a dit, écoute, il faut que tu m'aides, je suis j'ai un véritable problème. Il lui montre le cadavre de sa maman et de Marina Studer et lui demande son aide pour déplacer les corps. Voilà, c'est ce qu'il raconte lors de cette reconstitution.
Mais il paraît complètement perdu lors de cette reconstitution. Les images seront d'ailleurs projetées, je pense, au procès. Il n'est pas vraiment lui-même. Il ne sait même plus, il ne se souvient plus ce qu'il a fait, où il se trouvait.
Il sait plus. Non, il est vraiment pas bon. Et évidemment, ça va se retourner contre lui plus tard. On le sent hésitant, on le sent emprunté, on le sent... terriblement gêné par les questions qui lui sont posées. Enfin, c'est un moment très, très compliqué pour lui.
Alors, il y a aussi un élément qui a son importance, même s'il reste bien mystérieux. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, on va en parler. Il y a une paire de ciseaux qui est retrouvée sous le corps de sa mère. Mais curieusement, ces ciseaux n'ont pas servi au crime.
Oui, ils n'ont pas servi au crime. Et puis, il y a deux traces d'ADN sur les lames de François Légeret. Il dira pour sa défense qu'il a pu manipuler ses ciseaux à un autre moment, lors d'une visite précédant le drame chez sa maman. Donc pour ça, il y a une explication, en fait, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est acceptable.
Alors, qui vaut ce qu'elle vaut, même si, côté police, on pense plutôt qu'il a saisi les lames du ciseau parce qu'il était menacé par sa mère, qui peut-être voulait se défendre, puisqu'il y a aussi les traces sur la poignée des ciseaux, les traces de Ruth Légeret.
Exactement, c'est ce qu'on imagine, et il y a quelques éléments, les trois gros éléments à charge, si vous voulez, c'est vraiment cette paire de ciseaux, c'est la trace d'ADN de François sur le fameux col de la chemise de nuit.
Qui a été arraché, c'est ça ?
Le col a été, oui, légèrement, oui, c'est ça, arraché, on peut dire arraché. Et puis, il y a cette trace de griffure, évidemment, que François avait au visage le jour supposé du drame, et puis son emploi du temps. Ce sont vraiment les éléments à charge qui plaident contre lui.
Et qu'est-ce qu'il dira sur ces traces de griffure ?
Alors, sur les traces de griffure, il dira que c'est son chien qui les lui a faites.
C'est son chien qui lui a fait, d'accord. Oui, puisque il a beaucoup d'animaux.
Il a beaucoup d'animaux, vous savez, il a plein d'animaux dans sa belle maison des Monts de Corsier.
D'accord. Alors encore, on énumère un petit peu les mystères de cette scène de crime. Et je l'ai dit très brièvement, mais c'est important quand même. Il y a une trace de chaussures d'homme, une trace de chaussures de chantier, de marque Caterpillar d'ailleurs, voilà, on peut les citer.
C'est ça, exactement.
Et puis il y a cette trace aussi de main, une empreinte de main. Dans le dos de Madame Studer. Ça, c'est deux points qui n'ont jamais été éclaircis par l'enquête.
Ça, c'est deux points qui n'ont jamais été éclaircis. Pour la trace de main, évidemment, c'est un grand mystère. Et pour la chaussure, la justice a l'explication que, vu que la scène du crime a été quand même souillée assez rapidement avec l'arrivée des agents de sécurité et des pompiers, etc., et que peut-être que c'est tout simplement une trace des secours qui sont arrivés le jour de la découverte des corps.
Sauf qu'on n'a jamais retrouvé cette chaussure, hein.
Sauf qu'on n'a jamais retrouvé cette chaussure, effectivement.
Dès lors, le juge, je pense qu'il en est convaincu, le mobile retenu, si François a commis ses crimes, c'est l'argent, on est d'accord.
C'est le seul mobile possible, c'est l'argent. Effectivement, François est aux abois, a besoin de liquidités, mais il ne faut pas oublier qu'il est multimillionnaire potentiel. Il lui suffit d'avoir un peu de patience.
Oui, il a déjà beaucoup d'argent, oui.
Il a déjà beaucoup d'argent et il sait que sa maman ne va est quand même dans un âge où malheureusement on peut disparaître du jour au lendemain.
On est plus proche de la fin que du milieu, voilà. Comme on dit.
Exactement, il sait que bon, il faut être un peu patient et que le magot finira bien par tomber.
D'autant plus que Ruth à aucun moment n'a pensé à le déshériter. C'est un peu son fils chéri quand même.
Oui, c'est. Alors évidemment, c'est aussi un des nœuds de toute cette affaire. François, c'est le fils chéri. Ruth l'appelait mon trésor. Il y avait, une vraie relation de très marquée, très tendre entre la maman et son fils adoptif, mais qu'elle considérait bien comme son fils de sang. Et tout cela a aussi provoqué un peu du ressentiment de la part des autres enfants qui ont un peu mal vécu que cette pièce rapportée, si vous me permettez l'expression, qui n'est pas du tout agréable, mais c'est ressenti comme ça à l'époque dans la famille, que cette pièce rapportée venue d'Inde ait autant de poids dans cette famille.
François Légeret semble être dans une impasse. Il dément farouchement avoir tué les trois femmes, mais le juge d'instruction est convaincu du contraire. Le fils cadet ne va donc pas échapper à un procès. Ce 16 juin 2008, François Légeret prend place dans le box des accusés du tout petit tribunal criminel de Vevey. Il porte des cheveux longs et noirs, il paraît abattu, un peu perdu. Le procès va durer 11 jours, l'accusation met en avant les traces ADN retrouvées sur le col de la chemise de nuit de sa mère et sur une paire de ciseaux. Légeret dit avoir dit n'importe quoi sous la pression du juge d'instruction. 45 auditions, il était désorienté. L'accusation dénonce l'appétit financier qui serait insatiable de François Légeret, qui l'aurait poussé à commettre le pire afin de se retrouver seul héritier de la fortune familiale. Son avocat, maître Alain Dubuis, dénonce un dossier vide, aucune preuve solide, juste une construction intellectuelle, la construction d'un coupable. Mais les jurés ne suivent pas. Le 27 juin, Légeret est condamné à la prison à vie. Il est alors incarcéré au pénitencier de Beauchouze. Coup de théâtre. 6 mois après le verdict, une boulangère de Vevey certifie avoir vu le 24 décembre 2006 dans l'après-midi dans sa boutique Ruth Légeret, sa fille Marie-Josée, ainsi qu'une femme âgée qu'elle ne connaissait pas. C'était vers 17h. Témoignage sérieux, les certitudes des enquêteurs sont ébranlées. Selon eux, les victimes ont été tuées vers midi. Comment alors ces femmes pouvaient-elles faire leurs courses dans Vevey alors qu'à cette heure-là, elles étaient censées être mortes ? Un procès en révision est ordonné, mais il ne change rien. Le doute ne bénéficie pas à l'accusé Légeret. La peine de prison à vie est confirmée en mars 2010. En 2018, une autre habitante de Vevey confirme avoir croisé les victimes dans l'après-midi du 24 décembre. Elle avait eu peur de témoigner jusque-là, puis s'y est résignée. Son témoignage est argumenté, précis, digne de foi, mais ce coup-ci, pas de nouvelle révision. François Légeret a épuisé tous ses recours. Depuis le 31 janvier 2021, il peut théoriquement bénéficier d'une libération conditionnelle. Il continue de clamer son innocence. Arnaud Béda, journaliste en Suisse, et ce soir en direct dans l'heure du crime. Je n'en ai pas parlé, mais c'est un cas qui vraiment divise la Suisse, ce cas François Légeret. Il a ses partisans, il a ceux qui en croient qu'il est coupable, mais il a aussi ses partisans, il a même un comité de soutien aujourd'hui, François Légeret.
Oui, il a ses partisans, il a ses adversaires, un peu comme une autre affaire qui s'est joué à quelques kilomètres de là, la fameuse affaire Ségala.
Exact.
Et qui ressemble beaucoup à l'affaire Légeret et qui divise pareillement la population.
Et donc, il y a ces témoignages qui sont troublants sur l'heure du triple crime, avec ces deux femmes qui, à quelques années d'intervalle, vont dire « Mais non, pas du tout, nous, les victimes, elles ne pouvaient pas être mortes à midi puisqu'on les a vues vers 17h ».
Oui, c'était ce témoignage, notamment de la boulangère.
La boulangère, c'est le premier témoignage. Hein.
C'est le premier témoignage, oui. Mais ce témoignage-là est le plus troublant de tous. Moi, je l'avais rencontré, cette boulangère qui est maintenant décédée. Elle était tout à fait digne de foi et elle se souvenait précisément de cette date parce que ce soir-là, elle faisait le réveillon avec son fils, je crois, ou son mari, non, son fils. Mais elle avait un point de repère, elle avait un point d'accroche pour bien se souvenir de la bonne journée. Et évidemment, au procès, ça a été un festival parce que le procureur, évidemment, la laminait sous un feu roulant de questions. N'importe qui aurait perdu pied à sa place.
Oui, c'est ça. Donc, elle n'a pas tenu le choc face à l'accusation. Elle avait aussi un autre point de repère, c'est que ce jour-là, précisément, elle fermait sa boutique plus tôt, donc elle est formelle sur l'heure à laquelle elle a servi ses trois clientes.
Et exactement, il faut savoir aussi qu'elle a été déstabilisée avant le procès, parce qu'elle était suivie par un détective privé qui commençait à fouiller dans sa vie privée, qui a essayé de la faire passer pour alcoolique, et dont on a appris ensuite que le détective avait été mandaté par le fameux frère de François, que tout le monde appelle prudemment Simon, d'un pseudonyme, mais qui est bien connu sur la place de Vevey.
Et donc, alors là, c'est encore plus troublant, parce qu'on est effectivement dans la famille, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a ce deuxième témoignage aussi, pareil, hein, une femme tout à fait digne de foi, hein, c'est une dame qui habite Vevey, il n'y a pas de souci.
Qui est plus âgée, effectivement, mais tous ces témoignages sont excessivement plus troublants, mais qu'est-ce que vous voulez, toute cette histoire part. On retombe sur le fameux Simon qui va, au début de l'affaire, voir le juge d'instruction et qui lui dit « Ma femme a fait un rêve. » Voilà. Mmh. Elle a imaginé François venant à la Villa des Rurettes, tuant tout le monde, et c'est au final le coupé-collé de l'acte d'accusation. Et je n'invente rien dans ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier.
Alors, 45 auditions, hein, je l'ai dit, du juge d'instruction. C'est quand même rare d'avoir cette cadence d'interrogation dans un dossier.
Oui, enfin, on a pris les choses au sérieux et puis on a essayé de faire le mieux possible. C'est-à-dire, on dit que ça a été fait à la Suisse de manière propre en ordre.
Mmh. La sœur Arnaud Béda, la sœur, il faut bien le préciser aujourd'hui, elle n'a jamais été retrouvée.
La sœur Marie-Josée n'a jamais été retrouvée, sa voiture a été retrouvée, son passeport, son porte-monnaie dans la Villa des Rurettes. Et c'est un personnage extrêmement intéressant, notamment qui était persuadé d'avoir été envoûté lors de sa jeunesse en Afrique et qui allait régulièrement près de Rome pour voir un archevêque africain pour se faire désenvoûter, exorciser. Toute cette piste satanique n'a pas du tout été explorée par les enquêteurs.
Alors, piste satanique, on s'arrête une seconde là-dessus, parce que il y a quand même, dites pas exploré, mais pas tout à fait. Ils sont allés, je crois, interroger ce fameux archevêque, ou en tout cas son entourage, jusqu'à Rome,
non,
les enquêteurs.
Ils ne sont pas interrogés l'archevêque, ils sont interrogés une dame qui tenait une petite épicerie sur le chemin du monastère, qui était persuadée d'avoir vu Marie-Josée Légeret. Le problème, c'est que les enquêteurs suisses sont allés avec des photos de Marie-Josée Légeret jeune, et évidemment, la brave épicière n'a pas reconnu Marie-Josée Légeret. Quand j'y suis allé quelques semaines auparavant en montrant les photos les plus récentes de Marie-Josée Légeret, où elle ressemble, elle a des cheveux blancs plus longs, elle ressemble un peu à une sorcière, elle a un regard un peu illuminé, évidemment ce n'est pas ces photos-là qui ont été montrées par les enquêteurs à Zagarello, près de Rome.
Donc le mystère reste total. Encore un mot, Arnaud Béda, que devient aujourd'hui François Légeret? Je crois qu'il espérait pouvoir sortir.
Alors il espère pouvoir sortir, il était, ou il est encore peut-être ces derniers jours, dans la prison de Gorgier, au bord du lac de Neuchâtel. Théoriquement, il devrait pouvoir bénéficier de remise en liberté provisoire, mais il y a visiblement, alors si j'ai pas tous les détails, mais visiblement il y a une espèce d'argutie dans le règlement de la prison. Vous ne pouvez recouvrer une liberté conditionnelle que si vous reconnaissez le forfait pour lequel vous avez été jugé. Comme évidemment, il nie complètement avoir été l'auteur de ce triple meurtre, ça pose problème pour la libération conditionnelle. Il va être transféré dans un pénitencier beaucoup plus dur, ce qui est complètement aberrant, le pénitencier de Thorberg. C'est peut-être déjà fait alors où je vous parle, mais ça devait être fait 6 jours.
Il n'y a plus de recours pour lui, hein, Arnaud Béda.
Il n'y a plus de recours possible pour lui, non.
Merci beaucoup Arnaud Béda d'avoir été ce soir l'invité de l'heure du crime avec l'affaire François Légeret, tueur de sang-froid ou coupable idéal. Un dossier qui n'a peut-être pas fini d'apporter son lot de rebondissements. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.